le culte ancien, avec sa dimension cosmique, nous apportait. Mais aujourd'hui, on doit faire ce constat parce que cette grande aventure des troisième millénaire, je pense, c'est que justement les anciennes traditions, ou les traditions tout court, qui peuplent et qui sont à la racine de toutes les cultures, de toutes les religions, eh bien, sont appelées à recevoir le verbe, à être fécondées par le verbe, à être transfigurées, à être mort et ressuscité en lui, non pas pour qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle renaisse dans le Christ et qu'on puisse un jour enfin clamer que le Christ est la lumière du monde et que cette lumière se reflète non seulement dans le cœur de chaque homme, mais dans le cœur de toutes les religions et de toutes les cultures. Et qu'enfin aussi, toute la création soit elle-même, par le cœur de l'homme, transfigurée dans cette résurrection que nous attendons tous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de ce que nous avons médité déjà ce matin. Je voudrais demander, est-ce que vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé ce matin? Vous allez voir la réponse. De quoi avons-nous parlé ce matin? Est-ce que vous avez retenu au moins une phrase? Ça, ce n'est pas difficile. De qui?
Sainte-Thérèse.
De Sainte-Thérèse. Et pourquoi Sainte-Thérèse a dit « Je choisis tout » ?
Il faut accepter tout ce qui se présente comme la volonté de Dieu.
Oui. Que la volonté de Dieu, c'est pas forcément les...
C'est pas forcément. Alors, tout ce qui vient, voilà, on va résumer. Effectivement, tout ce qui vient, nos pères nous l'enseignent, Saint-Luc Dual ici, et justement, Anne-Françoise me disait qu'elle avait changé la parole de vie, ou elle allait le faire, je ne sais plus, et elle me dit, j'ai trouvé un texte de Saint-Luc Dual qui correspond justement à ce dont nous avons parlé ce matin, ce que nous avons médité ce matin. Alors, effectivement, tout ce qui vient est volonté de Dieu. Non pas parce que Dieu est à l'origine du mal qui nous arrive, attention, mais parce que si Dieu permet qu'il nous arrive, parce que vous pensez bien que Dieu nous protège souvent, il ne permet pas que nous puissions crouler sous les épreuves et que nous soyons détruits par les épreuves. Et souvent nous sommes protégés et on ne s'en rend pas compte. Souvent, sa grâce nous soutient et on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que nous avons vu dans un chapitre précédent combien la louange est importante. La louange veut dire l'action de grâce. Je vous l'ai rappelé ce matin en ce qui concerne la prière d'absolution dans la liturgie. Et ça ne veut pas dire non plus que nous devons accepter les choses avec un certain fatalisme, comme quelque chose qu'il faut subir. Non, au contraire, c'est une acceptation active, pleine de foi, et je dirais pour ceux qui ont vraiment la foi joyeuse. Parce que nous savons qu'au cœur de tout ce que nous allons vivre, la grâce de Dieu va être là. Mais si nous la refusons, si nous luttons contre elle, si nous nous braquons, si nous cherchons à vouloir, en résumé, si nous ne lâchons pas prise, eh bien, nous ne pourrons pas recevoir cette grâce, et bien nous allons nous battre seuls. Et c'est ce qui fait la détresse de l'homme, et souvent c'est des terribles épreuves, puisque à l'épreuve qu'il subit, il va ajouter sa colère, il va ajouter des souffrances supplémentaires. Alors, il y avait aussi, juste avant, il y avait une leçon, qui était... Chaque fois, parce qu'on parle de l'inspiration que Dieu nous donne à travers l'Esprit Saint, Dieu nous inspire. Et plus nous sommes ouverts et attentifs à ces inspirations, à l'inspiration, ce n'est pas le Seigneur qui soudain va apparaître, vous savez ce qu'on appelle l'angélo-théophanie, un ange va apparaître, mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée. Et puis, non, si un ange vous apparaît, méfiez-vous, ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. À moins que... Mais c'est quand même faire. Alors, c'est surtout que le Seigneur nous inspire. Nous inspire justement les bonnes pensées, les bonnes attitudes face à l'épreuve, face aux difficultés, ou tout simplement à faire le bien. Et plus nous sommes désireux de recevoir ces...
Vous dites que le Seigneur les protège, mais si eux, s'ils protégeaient, je ne sais pas, devenir aveugle.
Ah, alors attends, il faudra que je te parle, Monique. D'abord, tu n'es pas tout à fait aveugle. Parce que le Seigneur, il t'a quand même... Il n'a pas permis que tu perdes tout à fait ton œil. Mais le Seigneur, voilà, c'est étrange parce que il a dit dans ce livre-là que pour notre intelligence, ce qui nous arrive, c'est souvent scandaleux, c'est révoltant. Et souvent, beaucoup de gens s'opposent à Dieu en disant « Mais pourquoi Dieu permet ça ?» Mais c'est nous qui faisons ça depuis des siècles. Et Dieu nous a donné cette liberté et il ne cesse de nous avertir à travers les prophètes, à travers les sages, à travers quantité de signes que nous ne voulons pas écouter. Seulement nos erreurs, ce n'est pas seulement des erreurs qui vont avoir des répercussions sur notre vie, mais aussi sur notre entourage et pour le monde entier. Et il faut quelquefois être vraiment en face de grandes épreuves pour se dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais quelle est ta volonté ?» Et à ce moment-là, le Seigneur va nous faire, qui veut nous sauver, mais il veut nous sauver spirituellement. On va tous vieillir, on va tous mourir, on sera tous malades, plus ou moins. Et il y en a qui meurent très jeunes, et je me dis, moi, à 70 ans, j'ai de la chance quand même d'être encore en vie et de pouvoir vous parler aujourd'hui, et je remercie le Seigneur. Mais beaucoup de gens de mon âge sont déjà disparus. Et ils sont disparus, souvent dans le monde d'aujourd'hui, sans avoir la foi, ni comprendre ce qui se passait pour eux. Tu voulais dire quelque chose, non?
Oui, que c'était Saint-Samson aussi.
Demain?
Ce soir.
Ah oui, c'est ce soir. Saint-Samson, évêque de Dol, et dans notre église, à la suite de Saint-Tugdual, l'évêque du lieu ici est en même temps métropolite de Dol. Pratiquez le détachement. Ça va, vous allez supporter le reste, oui? Personne n'est sorti?
Non, ça va.
On va essayer de montrer combien Dieu est miséricordieux, qu'au contraire, il y a plein de douceur, plein de tendresse. Nous ne pouvons accueillir l'émotion de l'esprit si nous sommes rigides, attachés à nos biens, nos idées, nos conceptions, etc. Bref, pensez quoi. Pour nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, il nous faut une grande docilité et une souplesse. De la souplesse qui s'acquiert peu à peu à travers la pratique du détachement. Alors le détachement, c'est justement cette foi, cette confiance que Dieu est là. Nous sommes ses enfants. Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde infinie, dans cet amour fou, dont c'est une expression qu'on emploie aussi, il veille sur chacun d'entre nous. Comment pourrait-il nous abandonner lorsque nous sommes dans l'épreuve? Ou tout simplement, comment pourrait-il nous abandonner, nous qui sommes ses enfants, à chaque instant, il veille sur nous. Mais vous savez, dans l'amour, il faut qu'il y ait une réponse. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Est-ce que nous nous tournons vers lui avec confiance? Ou simplement que nous prions une fois de temps en temps quand ça va mal? Vous savez, Saint-Tugdual ici disait, « Oh Seigneur, je te demande pardon pour les quelques minutes aujourd'hui où je n'ai pas pensé à toi. » Les quelques minutes. Et nous disons, « Oh Seigneur, je te rends grâce de pouvoir t'avoir pu au moins penser à toi quelques minutes. » Et tout le reste du temps, eh ben, je suis complètement fait avaler, submergé par mes soucis, mes pensées, etc. Eh bien, le Seigneur, il le sait. Et il nous prend tel que nous sommes. Et il nous aime. Et il essaye d'attirer notre attention. L'Esprit ne cesse de faire le siège de notre cœur. Il ne cesse de nous attirer à lui. Et si nous avons conscience de cela, eh bien, chaque fois que nous y songeons, on s'abandonne, on fait confiance. Saint Thérèse de Lisieux disait, effectivement, ce matin, elle dit, je choisis tout. C'est-à-dire, on ne choisit pas le meilleur de la journée, hein. Je choisis tout. Et elle disait aussi, je choisis tout ce qui me contrarie. Tout, c'est ça, je crois aussi. Bah, de toute façon, ça va arriver. Alors, autant aller devant. Parce que, c'est au fond, elle a raison. Si je me dis, je me lève dès le matin, mais si je me dis, Seigneur, quelle chance j'ai parce que tu vas m'accompagner. Quelle chance j'ai, je te rends grâce parce que tu vas me soutenir, parce que je vais être béni à chaque instant. Tandis que si je me recroque vite chaque fois qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, ou tout simplement parce que j'ai mal aux dents, alors c'est vrai, normalement. Mais vous avez remarqué que plus on se prédit, plus c'est difficile. Et on a deux fois plus mal. Alors, voilà, le détachement. Le détachement, c'est l'abandon. C'est la confiance. C'est ouvrir son cœur à l'amour. Efforçons-nous de ne tenir à rien, ni matériellement, ni affectivement, ni même spirituellement. Alors, ça ne veut pas dire que, quand on parle affectivement, que les autres, j'ai décidé de ne plus les aimer comme suis-je tranquille. Pas tout à fait. C'est l'amour-attachement égoïste. Vous savez, celui « je donne, mais tu vas me donner toi aussi ». En général, on demande deux fois plus de ce qu'on donne. Et non, le mystère de l'amour, et ça se découvre que de l'intérieur et que dans la pratique, plus on donne dans le détachement et plus on reçoit. Donc, ni même spirituellement, non pas dans le sens de devenir je m'en foutiste, alors il y a même quelques petits points, il n'a pas voulu dire je m'en foutiste, hein, parce que je le traduis, ou d'être indifférent à tout, ni dans celui de pratiquer une sorte d'ascèse forcée pour nous dépouiller de tout ce qui fait notre vie. On est bien d'accord, hein ? Pas trop quand même. Ce n'est pas habituellement ce que le Seigneur nous demande. Mais il faut conserver notre cœur dans une attitude de détachement, garder à l'écart de tout une sorte de liberté, de distance, de réserve intérieure, qui fait que si telle chose, telle habitude, telle relation, tel projet personnel nous sont interdits, nous n'en fassions pas un drame. Vous avez remarqué que quand quelque chose nous est refusé, quand les choses ne vont pas comme on souhaiterait, eh bien, on a tendance à se maugréer, à se raidir, à se plaindre. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, où là, tout ce qui nous entoure ne cesse d'exciter l'avidité, l'envie, la jalousie, le besoin d'eux. Mais il faut conserver notre cœur dans une attitude de détachement, garder à l'égard de tout, comme une sorte de liberté, de distance, de réserve intérieure, qui fait que si telle chose, telle habitude, telle relation, tel projet personnel nous sont interdits, nous n'en fassions pas un drame. Ce détachement doit être pratiqué dans tous les aspects de notre vie. Mais sans doute, ce n'est pas l'aspect matériel qui est le plus important. On est parfois bien davantage empêché dans son progrès spirituel par l'attachement à certaines idées. Vous savez, les gens qui pensent être orthodoxes, au sens doctrinal du terme, la vérité, c'est d'abord une affaire doctrinale. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça vient après, ça. C'est une option. Un détachement, parce que comment vivre cet amour véritablement dans un don total de soi, ou comme le Christ, par la grâce de Dieu, peu à peu, nous parvenons à cultiver ce détachement, à cultiver le renoncement, à cultiver le don de soi, et de sentir que cette attitude-là nous remplit, nous donne cette paix, cette joie dont nous parlent les mystiques. Bref, le bonheur. Donc, renoncer à va empêcher dans son progrès spirituel par l'attachement à certaines idées, conceptions, manières de faire qui sont les nôtres. Écoutons le conseil d'un franciscain du XVIe siècle. Que votre volonté soit toujours prête à toute éventualité. Et que votre cœur ne soit asservi à rien. Quand vous formez quelques désirs,
que ce soit de manière à ne point éprouver de peine en cas d'échec, mais à garder l'esprit aussi tranquille que si vous n'aviez rien souhaité. C'est ainsi, la vraie liberté consiste à ne se lier à rien. C'est ainsi dégagé que Dieu cherche votre âme pour y opérer ses merveilles grandioses. L'attachement à notre propre sagesse, entre guillemets, même quand celle-ci se fixe des buts qui sont excellents en eux-mêmes, est peut-être le pire obstacle à la docilité de l'Esprit Saint. C'est fou comme on peut être attaché à des tas de choses. Est-ce qu'on ne s'accroche pas de temps en temps les uns les autres parce qu'on a une idée très précise? C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Sophie. Oui, elle est d'accord. Je m'en doutais.
Comment tu savais?
Ça doit être réciproque, non? Alors, donc, l'attachement à notre propre sagesse, entre guillemets, hein, même quand celle-ci se fixe des buts qui sont excellents en eux-mêmes, voire spirituels, est peut-être le pire obstacle à la docilité de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ouvert, on ne peut pas se laisser diriger par la grâce de l'Esprit. Il n'y a rien de pire, que ce soit sur le plan religieux, ou sur le plan de, tout simplement, dans le monde, chacun selon sa discipline, chacun selon ses certitudes, eh bien, c'est autant d'obstacles qu'on dresse dans notre cœur. Et les circonstances viennent bousculer tout cela. Et même quand les circonstances, les épreuves viennent bousculer tout cela, on ne comprend pas que Dieu les permet parce que c'est le seul moyen pour nous de lâcher, de nous ouvrir. Parce que ce qui va nous être révélé ne vient pas de la sagesse de l'homme, ne vient pas de notre expérience, ne vient pas de toutes les connaissances qui peuvent exister dans ce monde. C'est ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, dit saint Paul, et qui va être révélé au tout petit. Ça, c'est le Seigneur qui le dit aussi. Révéler les pauvres. Et c'est cette pauvreté-là qui est difficile. C'est ça qui est le cœur de l'Évangile. C'est ça qui est le cœur de la vie spirituelle. C'est ça qui est le cœur de la sainteté. L'humilité. Et l'humilité, on ne l'apprend pas dans la tête. L'humilité se vit dans notre chair. Elle se vit dans le temps. Elle se vit dans le quotidien. Et elle se vit parce que le Seigneur, justement, permet des épreuves parce que c'est le seul moyen que nous avons parfois de nous mettre à genoux. Mais quelquefois, l'épreuve, au lieu de nous mettre à genoux, nous raidit davantage. Et c'est encore pire. Il n'y en a plus pour longtemps, rassurez-vous. Alors, obstacle d'autant plus grave que cet attachement plus facile de ne pas être conscient d'un attachement à notre volonté propre. Comme nous pouvons avoir cette volonté propre qui nous échappe, le plus souvent nous n'avons pas conscience combien nous sommes attachés, liés à cette volonté propre qui justement c'est elle qui doit plier, qui doit se détendre, qui doit s'ouvrir. Donc je reprends la phrase. Obstacle d'autant plus grave que cet attachement est souvent inconscient, car il est évidemment plus facile de ne pas être conscient d'un attachement à notre volonté propre quand ce que nous voulons est une chose bonne en soi. Comme le but visé est bon, nous nous justifions de le vouloir avec un entêtement qui nous aveugle, sans nous rendre compte que la manière dont nous prétendons que notre idée se réalise ne correspond pas forcément au plan de Dieu. En d'autres termes, on est enferré dans nos certitudes, et on ne se rend pas compte que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, que c'est totalement contraire à ce que l'Esprit veut nous inspirer. Mais comme nous sommes tenaces, eh bien, on est sourd. Et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Dernier paragraphe. Il n'y aura jamais une coïncidence parfaite entre la sagesse de Dieu et la nôtre. Ce qui signifie qu'à n'importe quelle étape du cheminement spirituel, nous ne serons jamais dispensés de pratiquer le détachement à l'égard de nos conceptions personnelles, aussi bien intentionnées soient-elles. Alors, c'est intéressant ça parce que, encore une fois, celui qui admet que la vérité est au-delà des concepts, au-delà de ce que l'on croit. Imaginez que, une fois, je me souviens, c'est un souvenir qui me vient, je faisais du stop, et je suis pris en stop par un garçon qui a la charité de me prendre, qui est évangéliste. Mais fondamentaliste. Hein. Et là, je vois bien que je suis moine, et là, il me fait la leçon. Et il m'a dit, voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qui est écrit, c'est comme ça que ça doit se pratiquer. Alors moi, évidemment, je n'étais pas trop d'accord. Et à un moment, je lui dis, mais mon frère, qu'est-ce qui est important? Tu t'es arrêté, tu ne m'as pas pris parce que je croyais pas, que je pensais comme toi. Tu m'as pris parce que sur ton chemin, ton cœur a eu envie de faire la charité. Et tu as pratiqué l'amour de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel? Quel est l'important qu'on ait des différences là parce qu'on ne croit pas tout à fait la même chose? Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous sauver? Ou est-ce que c'est vraiment cet acte-là où tu as pris ton temps, tu t'es arrêté? Bon, c'est vrai que tu voulais faire de l'évangélisation. Mais ton évangélisation, tu ne sais pas ce que tu es en train de me baratiner. Enfin, je ne vais pas parler comme ça exactement. Mais c'est ce que tu as fait pour moi. Et je loue le Seigneur parce que tu m'as pris et tu me fais faire quelques kilomètres qui m'envoient un peu plus loin sur ma route. Et c'est ce que je vais garder. Je vais remercier le Seigneur pour ça. Et alors là, je me souviens quand même, il n'était quand même pas fermé. Il avait conscience quand même que c'était ça l'essentiel. Tous ces actes d'amour gratuits, tous ces renoncements. Qu'importe que celui qui est en face de moi me dise tu es un idiot, tout ce que tu penses est... ça ne vaut rien. Après tout, pourquoi pas? Même si je suis convaincu que, avec les années d'études théologiques, avec toutes ces années de vie pastorale, est-ce qu'il faut vraiment que je me dresse contre lui? Ou est-ce que simplement je dis à mon frère, dis-moi comment je peux te servir? Parce que ce que nous avons reçu, ce que nous avons appris, doit servir justement à nous donner, comme le Christ s'est donné sur la croix. À se renoncer et à ne pas se battre pour des idées, pour une doctrine. La doctrine, c'est un outil. Tout ce qui nous est donné à l'Église, ce sont des outils. Ce ne sont pas des buts. Vous vous souvenez de ce proverbe chinois qu'on répète souvent : le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Eh bien, nous ne regardons pas tout ce qui est. Cette matière dont nous avons besoin, qui est essentielle, y compris les sacrements. Parce que le Seigneur veut que nous aimions comme il nous a aimés. Que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Que nous puissions recevoir, ouvrir notre cœur à son amour. Et que cet amour nous enseigne à nous renoncer et à être justement ses enfants, capables de s'émerveiller dans un acte d'amour. Et alors, peu importe si nous ne pensons pas de la même façon, si nous n'avons pas la même religion, parce que c'est l'amour qui doit nous convaincre. Le Christ n'est pas venu donner une doctrine. La doctrine, elle est nécessaire. Mais encore une fois, en finalité, il est venu apporter l'amour vivant, qui est la seule chose qui peut me sauver et sauver le monde. Voilà pourquoi ce que nous avons lu aujourd'hui est si important, parce que c'est là que ça va nous conduire. Quel est le thème de ta... T'as un thème particulier dans ta calligraphie, là ?
L'arbre.
L'arbre. Ben, écoute, je ne sais pas si tu peux t'inspirer de ce qu'on a médité aujourd'hui, mais je trouve que l'arbre trouverait tout à fait sa place. Parce que l'arbre, lui, il ne discute pas, il n'a pas de mental... il est un merveilleux symbole de vie, enraciné, et puis en même temps complètement ouvert au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.